Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne Le Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé grâce au podcast. Je m'appelle Jean-Noël et je suis encore, quelle chance, accompagné de Carole aujourd'hui. Bonjour Carole.
Salut Jean-Noël.
Encore une nouvelle émission de Biotine où on va parler d'espace, où on va parler d'animaux et où on va parler de roses. C'est ce que tu nous avais promis la semaine dernière,
tout
à
fait. Le
parfum de la rose, donc on verra ça dans le cours de cette émission. On retrouvera aussi bien évidemment Anne Fleur avec la rubrique InnoCity. On devrait rester normalement sur le continent africain. On était au Sénégal la semaine dernière et là on devrait plutôt se rapprocher du Maghreb. On verra ça bien sûr dans le cours de cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars. Ah, c'est le printemps.
Enfin.
Et du coup, le 21 mars est une date qui a été choisie pour pas mal de journées internationales. La Journée internationale des forêts, qui a été décrétée il y a 50 ans par l'ONU et notamment sa branche agriculture et alimentation. La Journée mondiale de la poésie, qui a été décidée par la Conférence générale de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. C'est la Journée mondiale de la trisomie 21, reconnue par l'OMS. Je n'ose pas penser qu'ils ont choisi le 21 mars pour la trisomie 21, j'espère pas, je trouve que ça sera un peu bizarre, mais bon, on va savoir. La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, ce qui commémore une répression policière sanglante en Afrique du Sud en 1960. C'est également, et là c'est très important Carole, la Journée mondiale de la marionnette, qui a été créée en 2003 par l'Union internationale de la marionnette, et oui, ça existe. Enfin, n'oublions pas aujourd'hui que c'est la Journée mondiale du rangement de bureaux créée en 2013.
Ah, on en avait déjà, ça ne marche pas en fait si je ne parle pas en face du micro.
C'est ce que je voulais
on
te dire.
On en avait déjà parlé.
Exactement.
Parce que je me souviens dans l'émission.
La Journée mondiale du rangement des bureaux. Pas mal de 21 mars assez marquants d'un point de vue scientifique et technique. En 1908, Henri Farman vole sur 2 km en biplan. En 1999, bien c'est Bertrand Piccard et Brian Jones qui atterrissent en Égypte. La veille à 10h54, ils ont bouclé le premier tour du monde en ballon sans escale en 19 jours. Et il y a 3 ans, le mathématicien français Yves Meyer reçoit le prix Abel pour son rôle central dans le développement de la théorie mathématique des ondelettes. Naissance le 21 mars 1941 du vicomte Dirk Frimouth. C'est un astronaute belge. Il est le premier belge à avoir été dans l'espace. Il effectue son unique vol dans l'espace en 1992 en remplacement d'un astronaute américain qui avait été écarté en raison de problèmes médicaux. Et à bord, il est responsable, le vicomte Dirk Frimouth, responsable des tests scientifiques qui ont été effectués. Il étudie l'atmosphère et notamment l'influence du soleil sur l'atmosphère de la Terre. C'est son anniversaire aujourd'hui, il est toujours vivant. Il est né en 1941, il a donc 79 ans, si je ne dis pas de bêtises. Décès le 21 mars 1762 de l'abbé Nicolas-Louis de La Caille, l'un des principaux astronomes français du XVIIIe siècle, membre de l'Académie royale des sciences. Il effectue une longue mission dans l'hémisphère austral dans les années 1750 à 54, où il est envoyé pour mesurer l'arc du méridien. Il y fait peu d'observations dans le domaine de l'histoire naturelle, mais il en rapporte une collection considérable, notamment d'oiseaux. Après avoir construit un observatoire astronomique en Afrique du Sud, précisément au Cap, il effectue en revanche un nombre impressionnant donc d'observations astronomiques. Il termine son séjour austral à l'Île-de-France, puis à l'île Bourbon. Alors l'île de France depuis ça a été renommé l'île Maurice et l'île Bourbon c'est l'île de la Réunion. Nous sommes en 1754, période au cours de laquelle il effectue un relevé également géodésique de l'île de France, donc de l'île Maurice. L'abbé Nicolas-Louis de La Caille décédé un 21 mars 1762. Sinon il y avait beaucoup de choses,
oui,
ce 21
très
mars.
Riche.
Autant des fois il n'y a rien à dire et on rame un peu, autant là mon sang j'en ai fait 5 minutes, mais voilà, c'est un petit peu l'éphéméride habituel. Pour démarrer cette émission, on va commencer par une note pas nécessairement optimiste, mais il ne faut pas se leurrer, on sait très bien que sur le plan de la biodiversité, les nouvelles ne sont pas décidément très bonnes ces jours-ci. Il y a quelques jours, des chercheurs nous alertaient sur le 500 000 d'espèces d'insectes en danger de disparition. Eh bien là, c'est une équipe de chercheurs de l'université de l'Arizona aux États-Unis qui estime que si rien n'est fait pour limiter le réchauffement climatique, un tiers des espèces animales et végétales pourrait disparaître dans les 50 ans à venir. Un tiers, c'est énorme.
C'est une catastrophe, c'est énorme, oui.
Les chercheurs ont étudié des extinctions récentes dues au réchauffement climatique, les taux de déplacement des espèces et différentes projections du climat futur, ce qui est donc une première, et avec des données portant sur pas loin de 600 espèces végétales et animales dans près de 600 sites répartis, ce qui est pas facile à dire, 600 sites répartis sur l'ensemble du globe. Les espèces auxquelles ils se sont intéressés sont celles qui ont été étudiées au moins deux fois à moins de 10 années d'intervalle, et le constat est inquiétant, c'est qu'à peu près 44% de ces espèces ont déjà disparu dans un ou plusieurs sites, donc ça va de mal en pis. Les chercheurs ont analysé des variables climatiques pour déterminer lesquelles entraînent le plus d'extinctions et combien de changements une population donnée peut tolérer, à quelle vitesse elle est capable de se déplacer pour échapper au réchauffement climatique aussi, de quoi pense-t-il estimer de manière détaillée les taux d'extinction mondiaux pour des centaines d'espèces. Les chercheurs indiquent que les températures annuelles moyennes souvent utilisées pour caractériser le réchauffement climatique ne sont finalement pas très significatives en matière d'extinction d'espèces. Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été avancé par de précédents travaux, les espèces ne devraient pas être en mesure de se disperser suffisamment vite pour éviter leur perte. Et donc, le résultat de ces études, c'est qu'une espèce sur trois pourrait disparaître d'ici 2070. 2070, c'est demain.
C'est demain.
Il
ne
faut pas se
leurrer.
Et ce genre d'annonce, ce genre d'étude, malheureusement, n'est pas unique. Enfin, je veux dire que dans cette émission, depuis maintenant un certain nombre de mois, on évoque, j'allais dire presque toutes les semaines, une information qui confirme les dégâts qui sont en train d'être causés par ce dérèglement climatique. Et là, on parle de disparition de la biodiversité. Ça va avoir un impact effrayant. J'ai l'impression, malheureusement, qu'il n'y a pas encore une véritable prise de conscience d'un point de vue global, général. Les gens connaissent encore.
Il y a des gens qui alertent, il y a des gens qui essaient de sensibiliser, les gens ils sont quand même extrêmement investis. Mais malheureusement, les gouvernements, les politiques ne changent pas assez vite. Les décisions, on va dire, d'envergure qui devraient être prises ne le sont pas.
Ne le sont pas. Et là, on parle bien d'une échelle vraiment internationale.
Bien sûr.
On reste pas uniquement dans notre pauvre petit pays, parce que là, on...
On ne pourra pas sauvegarder juste la France tout seul. De toute façon, ce ne sera pas possible.
Je ne pense pas, même si on est fort.
Oui, bien sûr.
On part dans l'espace.
Dans l'espace, finalement, ces dernières semaines, on est quand même énormément parti dans l'espace avec cette fois-ci un sujet sur la protection de la Terre vis-à-vis des astéroïdes qui nous menacent. Puisque à mesure que les moyens terrestres et spatiaux se modernisent, eh bien, les scientifiques sont capables de recenser les géocroiseurs les plus menaçants pour la Terre. Mais si un de ces objets à l'image, par exemple, d'Apophis devait entrer en collision avec la Terre, eh bien, laquelle des techniques que nous allons évoquer un peu plus tard, de protection planétaire à l'étude, aurait le plus de chances de nous protéger. Eh bien, une équipe de l'Institut de technologie du Massachusetts a peut-être la réponse. Alors, la défense planétaire, c'est un sujet de préoccupation au sein des agences spatiales. En 2007, la NASA a conclu dans un rapport soumis au Congrès américain que dans le cas où un astéroïde se dirigerait vers la Terre, le moyen le plus efficace de le dévier serait d'utiliser une bombe nucléaire. Bon, alors, ça me fait aussi un peu frémir. Cela dit, si l'idée de faire exploser une charge nucléaire à proximité donc, de l'objet, en espérant que l'onde de choc modifie sa trajectoire, ça progresse en fait dans l'esprit des Américains, je le dis. Côté européen, elle est plus ou moins abandonnée. On est peut-être un peu plus sage. Alors, diplomatiquement, il sera très difficile à l'ESA de faire accepter ce scénario à certains de ses États membres, dont l'Allemagne vent debout contre l'utilisation de l'énergie nucléaire. Quelle est la deuxième option? La deuxième option, c'est celle d'un impacteur cinétique qui consiste à lancer un engin à très grande vitesse afin de percuter l'astéroïde menaçant de façon à le dévier de sa trajectoire. Alors, il s'agit de la solution finalement la plus simple et techniquement réalisable dans des délais assez courts. Quant à la troisième solution, Eh bien, il s'agit de modifier gravitationnellement la trajectoire d'un astéroïde avec une sonde volant en formation. Bien qu'elle soit jugée efficace sur le papier, cette technique nécessite des technologies qui ne sont pas suffisamment matures aujourd'hui pour la mettre en œuvre. Alors, laquelle de ces trois techniques aurait probablement le plus de succès pour dévier un astéroïde qui filerait tout droit sur la Terre ? Eh bien, pour répondre à cette question, donc une équipe de scientifiques de l'Institut de technologie du Massachusetts a mis au point un outil capable de déterminer la technique qui aurait les meilleures chances de succès. Étant donné l'ensemble des propriétés incertaines d'un astéroïde, cet outil tient compte de plusieurs paramètres de l'astéroïde en question, dont sa masse, sa vitesse, sa proximité, avec ce qu'on appelle un trou de serrure gravitationnel, et également toutes les incertitudes associées à ces paramètres. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, cet outil, il a été testé sur deux astéroïdes, dont on connaît l'emplacement de leur trou de serrure gravitationnel. Il s'agit d'une zone à proximité de la Terre, dont le franchissement perturberait gravitationnellement les astéroïdes, ce qui les amènerait sur une trajectoire de collision avec la Terre. Alors, ces astéroïdes sont Apophis, qui doit survoler la Terre en dessous de l'orbite géostationnaire en avril 2029. Oui, c'est-à-dire que ce sont des prédictions, du coup, à long terme. Et Bennu, un astéroïde proche de la Terre et cible de la mission Osiris-Rex de la NASA, qui prévoit de rapporter sur Terre des échantillons de sa surface en 2023. Les scientifiques ont passé en revue et évalué laquelle des techniques qu'on vient de citer serait la plus efficace pour dévier ces astéroïdes en fonction du temps dont les scientifiques disposent pour préparer une mission. Oui, parce que si on dit que ce serait telle technique, mais on ne peut pas la mettre en œuvre parce qu'on n'a pas le temps, ça ne sert à rien. Ils ont également simulé différentes distances entre chaque astéroïde et leurs trous de serrure respectifs et calculé pour chacun une région refuge où il pouvait être dévié sans aucun risque pour la Terre et éviter de passer à proximité d'un trou de serrure gravitationnel. Alors, concernant le premier, Apophis, s'il devait passer par un trou de serrure dans 5 ans ou plus, et donc être dévié et donc impacter la Terre, les agences spatiales auraient suffisamment de temps pour envoyer deux sondes de reconnaissance, dont une pour mesurer ses dimensions précises et calculer ses principaux paramètres, avant d'envoyer un impacteur pour dévier sa trajectoire. Donc solution 2. Si le passage dans un trou de serrure se produit dans les 2 à 5 ans, c'est-à-dire plus proche du temps actuel, les agences auraient suffisamment de temps pour envoyer une mission le caractériser afin de dimensionner l'impacteur utilisé pour le dévier. Par contre, si Apophis passe à travers son trou de serrure dans un an, il est trop tard.
Barrez-vous.
Aucune mission n'aurait suffisamment de temps pour l'atteindre et le dévier, quelle que soit la technique envisagée. Donc en fait, c'est globalement, on le sent bien, la solution numéro 2 qui est privilégiée. Ça dépend évidemment du temps que nous avons avant que potentiellement l'astéroïde soit dévié, en fait, et une chance justement d'avoir son trou de serrure gravitationnel et donc d'être dévié vers la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au deuxième, notre ami Bennu, là ? Il est dans un cas similaire. Alors, il est mieux connu des scientifiques qu'Apophis. Dans ce cas-là, une mission de reconnaissance n'est pas nécessaire. On peut envoyer directement une mission d'impact pour le faire dévier de son orbite dangereuse pour la Terre.
Mais un impacteur, c'est quoi ? C'est un genre de fusée qu'on envoie Qu'est-ce que c'est que c'est ? Enfin, comment tu peux dévier ?
Un impacteur cinétique. C'est un engin, alors oui, un engin à très grande vitesse, ils décrivent pas, qui viennent percuter l'astéroïde. À l'heure actuelle, un engin à grande vitesse, oui, on peut imaginer qu'un type de fusée ou de... J'allais dire de missiles, mais je vais regarder si on a des propositions.
Comme un moustique sur un pare-brise.
Alors après, je pense que tout dépend de la taille de l'astéroïde. Là, ça n'a pas été précisé, mais évidemment, on parle de cas d'astéroïdes qui, je pense, ont aussi des dimensions où c'est possible. Ça a été calculé.
J'en doute pas, mais dans ces cas-là, si c'est des astéroïdes qui ne sont pas si grands que ça, il n'y a pas non plus énormément de danger. Ça peut faire des dégâts, d'accord.
Oui, quand même.
Enfin bon, c'est pas non plus...
Sachant que je pense qu'à la fin, ça tombe sur Terre. C'est ça le problème.
Et Bruce Willis, dans tout ça, est en retraite, hein, peut-être.
Oui, maintenant, il a arrêté de sauver le monde. Il l'a dit. Non, mais imaginons, ça tombe sur Paris... Si on peut l'éviter, dans tous les cas, à moins qu'on arrive à prédire, et je ne sais pas si on peut ça, on doit pouvoir le calculer, mais à quel endroit de la Terre il tomberait, on a peut-être le temps d'une évacuation, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'on... Il y aura potentiellement des conséquences après sur le long terme.
C'est cette notion d'impacteur qui me...
Je vais regarder si on me suggère des idées d'impacteurs cinétiques.
Je vois le principe. Oui, on envoie quelque chose qui va percuter et qui donc va le dévier. Donc oui, sur le papier, ça semble la solution la plus évidente. Mais alors c'est quoi cet engin qui va pouvoir avoir une force et une résistance pour dévier quand même un astéroïde qui n'est pas uniquement un caillou. En fait,
Oui, bien sûr.
Ça me pose question. Et cet article...
Et Bruce Willis a la réponse, peut-être.
Bruce Willis a la réponse. Et cet article, en fait, a le sens de nous rassurer en lui disant « De toute façon, on est prêt. » Bon, sauf si ça arrive dans un an. Mais enfin bon, d'ici un an...
Bah, ils sont surveillés. Donc, en fait, théoriquement, c'est ça qui quand même est rassurant. Les agences spatiales les surveillent, surveillent leur trajectoire et essayent de prédire si jamais elles pourraient nous rencontrer ou pas.
Et donc 2029, là, il y en a un qui arrive, là ?
Non. Oh, c'est si, en fait, c'est s'il y avait justement l'astéroïde rencontrer son trou de serrure gravitationnelle, il pourrait nous impacter en 2029.
Eh bien, on suivra ça peut-être sur Antenne de Graphitoyeur, on verra bien. J'ai envie de te parler de Diego. Qui est Diego ?
Je ne sais pas.
Diego, libre dans sa tête.
Oui.
Diego est une tortue.
Ah.
C'est la tortue sexe symbole, Diego, qui va enfin retrouver la liberté. Et c'est en train de se faire, hein, c'est prévu en mars. Et tout ça à l'issue du programme de reproduction en captivité qui avait été initié dans les années 1960. Ça fait 50 ans, ça y est, maintenant il va pouvoir partir. Il est accompagné d'une quinzaine d'autres adultes reproducteurs. Il va être relâché sur l'île Española, c'est dans l'archipel des Galapagos dont il est originaire. Et pour cela, ces tortues vont d'abord être mises en quarantaine. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et afin de s'assurer qu'ils n'emportent pas de coronavirus, non je plaisante, non de graines de plantes exogènes, hein, c'est ça qu'on veut vérifier, potentiellement invasives, dans leur nouvel habitat. En fait, Diego, c'est une tortue centenaire, elle est célèbre et elle avait été rapatriée en 1976 du zoo de San Diego sur l'île de Santa Cruz pour sauver son espèce. En effet, il y a 50 ans, il ne lui restait plus que 14 spécimens de cette espèce de tortue qui est la tortue Chelonodis odensis. Et un programme de reproduction a alors été mis en place, les individus restants étant trop éloignés les uns des autres pour pouvoir se rencontrer, se reproduire sans un petit coup de pouce. Et on a le résultat, c'est qu'il y a maintenant 2000 individus aujourd'hui, ça veut dire que le programme est un vrai succès. Un succès grâce à Diego, parce que ce Diego, il a une libido exacerbée. Ils étaient donc accompagnés de 6 femelles et d'autres mâles. Ils ont conçu 1800 descendants qui ont eux-mêmes pu avoir une progéniture et ainsi de suite. En 2010, une étude génétique effectuée au sein du parc national des Galapagos a permis de découvrir que 40% de ces petits sont ceux de Diego.
Waouh!
Tu te rends compte, mais c'est quand même magnifique. Bravo, Diego! Certains scientifiques s'inquiètent néanmoins qu'un tel succès reproducteur est remarquable, mais peut s'avérer problématique pour la diversité génétique, bien évidemment, de la nouvelle population de tortues, puisque un tel nombre de frères et sœurs, eh bien, on a un risque de consanguinité, bien évidemment, assez important. Mais en tout cas, voilà, Diego, la tortue, qui a sauvé son espèce grâce à sa libido, retrouve enfin la liberté. Il va pouvoir finir sa vie comme ça, tranquillement.
On sait combien
dans les
temps...
eaux de Galapagos.
Combien de temps il a encore à vivre
On ne sait pas, déjà centenaire.
Parce que je pense que ça paraît déjà. Les tortues peuvent vivre vraiment âgées, mais.
Elles peuvent vivre vraiment âgées, mais toi, il a déjà 100 ans. Et
parce qu'il a quand même bossé toute sa vie. Hein.
Il a quand même bossé.
Enfin la retraite.
Mais
oui,
pour la bonne cause.
Pour sauver son espèce.
Il a sauvé son espèce. Bravo, Diego, la tortue sexe symbole des Galapagos. C'est un hommage pour toi, on parlait d'animaux.
Oui, tout à fait.
On va partir à Tunis.
Ah, c'est donc Tunis.
C'est
très
donc
bien.
Tunis, la ville choisie par Anne Fleur pour sa chronique InnoCity. Elle choisit une ville, en l'occurrence ici Tunis, et nous présente un petit peu toutes les inventions qui ont été créées dans cette ville. C'est à toi, Anne Fleur. On se retrouve juste après.
Good morning Compiègne, bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis très heureuse de vous ramener dans un nouveau pays pour parler des inventions et des innovations d'une région du monde. Alors aujourd'hui, il n'est pas coutume, je vais vous amener sur le continent africain et plus précisément en Tunisie. C'est l'hiver, c'est presque le printemps, on mérite d'aller faire un petit tour à Tunis. Bon, et alors, au lieu d'aller faire un tour dans l'histoire de la Tunisie, j'ai décidé de vous présenter des innovations modernes qui datent, qui datent du concours national de l'invention en 2019 et en 2018. J'espère que ça vous plaira. Alors, la première invention dont je vais vous parler, c'est la saphonienne, et elle a été inventée par un certain Anis Aouini. Elle offre en fait la possibilité de générer une énergie propre, très peu coûteuse, tout en exploitant efficacement l'énergie cinétique du vent. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le principe de l'éolienne. Peut-être, mais en fait, pas du tout. C'est le tout premier système donc, de gestion donc, de l'énergie cinétique du vent, comme je viens de vous le dire, qui n'a pas de pales, en fait. C'est pas un moulin. Ça peut être utilisé pour pomper de l'eau ou même servir comme compresseur pour une climatisation. L'inventeur qui a, alors je crois, un peu moins d'une quarantaine d'années ou à peu près une quarantaine d'années, il s'appelle Anis Aouini. Donc comme je vous le disais, il a passé un peu plus de 2 ans sur ce projet. Et donc en fait, au lieu de tourner, ce convertisseur, si je puis dire, en fait, il suit un mouvement d'aller-retour tridimensionnel qui génère ainsi de l'électricité. Donc voilà, c'est un super projet éco-friendly et qui est pas cher. Franchement, j'ai envie de dire qu'on lui souhaite longue vie. Alors, une autre invention dont je vais vous parler, il s'agit d'une invention d'une femme, d'une certaine Hayat Omri, et donc qui aurait inventé un purificateur de l'acide phosphorique. La Tunisienne, en fait, est très connue. Elle a à son actif 4 inventions, au moment en tout cas des articles que j'ai trouvés, qui datent, je crois, de 2015. Et toutes ces inventions sont dans le domaine de la chimie organique, et elle a carrément déposé des brevets. Donc, bravo. L'invention donc, consiste donc, en la purification, je vous le disais, de l'acide phosphorique, de la voie humide. Et en fait, elle a remporté pour ceci le prix de la meilleure invention au cours des Olympiades, des jeunes inventeurs en 2013. Bravo Hayat. La troisième invention dont je vais vous parler, c'est le diffuseur enterré de Béchaleb Chabani. C'est en fait une nouvelle technologie qui est hyper intéressante pour une gestion optimale des eaux d'irrigation, donc dans les champs par exemple, et une conservation de l'intégralité de cette eau. Le système d'irrigation en fait utilise des diffuseurs d'eau en plastique qui sont donc enfouis sous terre, et il consiste à creuser 4 trous en fait à la base d'un arbre et d'un diffuseur donc qui est enfoui dans chaque trou à une profondeur de presque d'un demi-mètre à peu près au niveau de la racine. Et donc ces diffuseurs en plastique sont connectés donc à un réseau de tubes qu'on imagine un peu des canalisations sous ils sont reliés à une conduite principale qui elle-même est reliée à un réservoir qui est un petit peu plus surélevé. Lorsque l'eau est relâchée, les diffuseurs se remplissent d'eau, le compteur enregistre le volume d'eau et en général, on récupère environ 10 mètres cubes par arbre, ce qui est hyper conséquent et du coup super intéressant pour recycler l'eau. Voilà, j'espère que ce petit tour des inventions et des inventeurs primés de Tunisie au cours de ces quelques dernières années vous aura plu. Si vous souhaitez que je vous parle d'un pays ou d'une invention en particulier, n'hésitez pas à écrire directement à Jean-Noël qui me transmettra le message et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt, bonne semaine.
Bah oui, n'hésitez pas, si vous avez des idées de villes, des idées de pays, vous pouvez nous les suggérer en passant par le site internet de Graphite, graphite.net, bien sûr. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, on feuillette comme ça ensemble le grand livre de la vie. Enfin non, c'est la revue de presse de l'actualité scientifique. Carole, et tu nous parles un petit peu de médecine pour une prise de...
Et de biologie. Oui, on va être un peu sérieux, on va parler des neurones.
Oh. Là, des neurones.
Petit cours de biologie.
Il m'en reste encore 4 à préserver. Ce midi.
Oui, et ben c'est peut-être déjà pas mal, mais insuffisant à mon avis, Jean-Noël. Donc, j'ai fait en fait un petit point sur des recherches récentes sur donc, les neurones. Et donc, déjà, des scientifiques se sont intéressés à essayer de comprendre leur structure, donc plus en détail. Alors, moi, je vous invite en fait de temps en temps à aller consulter noter, en fait, ce sont des rubriques sur le site du CNRS qui, en fait, compilent toutes les découvertes majeures qui peuvent se passer scientifiques et relayent, en fait, ensuite vers des références. Alors, on n'a pas toujours accès après aux articles qui, en plus, sont en anglais, mais néanmoins, ça permet quand même toujours comme ça d'avoir un petit bulletin des grandes avancées. Donc, si un sujet qui vous intéresse, en biologie notamment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et alors là, la structure étudiée, en fait, c'est celle des axones. C'est le prolongement du neurone qui conduit l'influx nerveux. Et donc, cette partie, eh bien, elle est à la fois flexible et résistante. Et ça constitue, en fait, depuis longtemps, un mystère aux yeux des biologistes. Alors, des études récentes ont montré que sous la membrane de l'axone, eh bien, il y a en fait des anneaux composés de filaments d'actine qui permettent à la structure de garder sa souplesse sans pour autant qu'ils aient réussi en fait à dévoiler l'architecture complète. Alors, pour ceux qui ont bien suivi leur cours de biologie, et pour ceux qui ont peut-être un peu continué à la fac, parce qu'on n'en parle pas toujours au lycée, on parle de l'actine, des microtubules, de la myosine. Ça, ce sont des structures qu'on retrouve dans les fibres musculaires. Oui. Donc là, en fait, il s'agirait de l'actine, mais il y aurait aussi une histoire de microtubules et de spectrine. C'est pour ça que là, je vous invite, parce qu'en fait, il y a des images superbes de ces recherches qui ont été faites, de ce qu'ils ont réussi à obtenir en microscopie sur le site donc du CNRS. En fait, en combinant pour la première fois deux techniques de microscopie, optique et électronique, des chercheurs de l'Institut de neurophysiopathologie, donc c'est une collaboration CNRS ex-Marseille Université, et de l'Institut de myologie INSERM Sorbonne Université, sont parvenus à observer des anneaux à l'échelle moléculaire. Donc c'est là qu'ils ont vu que ceux-ci étaient constitués de longs filaments d'actine tressés à la manière d'une couronne de Noël. Ils ont découvert ça au mois de décembre, donc c'était deux saisons. Donc ces travaux, eh ben, ils permettent d'en savoir un peu plus sur l'architecture des axones et ils ont été publiés dans une revue extrêmement sérieuse qui s'appelle Nature Communications, donc un des petits, un enfant de Nature très connu. Alors là, il y a eu des images incroyables avec des belles couleurs qu'on ne voit pas sur ma feuille parce que c'était imprimé en noir et blanc.
Et à la radio, on veut encore moins.
Encore moins, oui, mais je donne envie aux auditeurs, voilà. On voit l'axone d'un neurone qui comporte ces fameux anneaux d'actine qui sont tous espacés par des spectrines tous les 190 nanomètres, je pense que, non, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça, donc on est dans l'infiniment petit. Le décapage ultrasonique, donc une des techniques, permet de rendre accessible l'axone à la microscopie électronique sur réplique de platine. Oui, là on est dans de la microscopie de pointe. Celle-ci permet dès lors de visualiser les anneaux formés de deux longs filaments d'actine. Donc là en fait on les montre sur les photos, c'est assez intéressant. Et en fait la microscopie corrélative de super résolution qui s'appelle Storm et électronique, donc on couple les deux, on dirait des super pouvoirs, hein, dit comme ça. Elle permet justement d'identifier les anneaux d'actine au sein du réseau de spectrine. Donc voilà, on essaye de décomposer ce réseau, on essaie de comprendre comment il est structuré, mais ils n'ont pas fini justement d'étudier ces axones puisque pour l'instant ils n'ont pas complètement percé le mystère.
Ce qui est intéressant, c'est tous les débouchés que l'on devine dans la connaissance. Enfin, il y a pas mal, comment dire, de maladies
neurodégénératives. Tout à fait.
Et là, c'est une véritable avancée parce que là, on vient d'ouvrir une nouvelle porte.
Tout à fait, pour essayer de comprendre le fonctionnement complet. Il y a encore beaucoup, beaucoup de zones
de zones
d'ombre et qui ne sont pas claires sur et les neurones et tout leur environnement, ce qui nourrit aussi les neurones. Beaucoup de choses qui pourraient sans doute faire évoluer les traitements concernant les maladies neurodégénératives. Et c'est une transition qui est parfaite puisque justement, il y avait également d'autres informations qui concernent là le vieillissement des neurones. Donc, c'est parfait. En fait, ils ont remarqué donc, des structures, les chercheurs, des structures inhabituelles d'ADN qui seraient apparemment impliquées justement dans le vieillissement des neurones. Donc là aussi, sur le site du CNRS, l'ADN peut transitoirement revêtir des structures plus complexes que celles en double hélice, les quadruples hélices ou quadruplex d'ADN en sont un exemple. Alors, ce sont des cibles privilégiées dans la lutte contre les cancers. Et donc, en étudiant leur rôle dans les neurones, une collaboration internationale impliquant un chimiste au CNRS vient de montrer pour la première fois que les quadruplex sont des marqueurs de vieillissement neuronal et qu'ils influent négativement sur l'autophagie. Alors, l'autophagie, c'est quand il y a disparition, du coup, d'une cellule neuronale. C'est donc un processus primordial pour les neurones, de par son effet protecteur, justement, contre les maladies neurodégénératives. Oui, on sait qu'il existe, alors je ne sais pas si ça fait vraiment partie des mécanismes de réparation, mais en tout cas, ce type de mécanisme, ça existe aussi au sein des cellules, hein, pour éviter, justement, la propagation, et donc que des maladies se déclarent. On a quand même toute une boîte à outils, déjà, normalement, mais ne serait-ce que même pour éviter les cancers. Mais voilà, malheureusement, dans certains cas, ce n'est pas suffisant. Alors, ça a été publié, cette étude, dans la revue eLife en février. Et les résultats, ils soulignent les précautions qui doivent être prises lors de l'utilisation de ligands de quadruplex comme agents anticancéreux. Eh bien oui, parce qu'apparemment, ces molécules, elles auraient cet effet-là, secondaire, quelque part, de déclencher des troubles neuronaux symptomatiques des maladies liées au vieillissement. Donc, c'est là où voilà, on montre que ce sont des avancées qui vont être primordiales et qui vont permettre déjà de se rendre compte que peut-être à des moments, ce qu'on utilise pour guérir une maladie peut aussi en entraîner une autre. C'est dommage de commencer à soigner un cancer et d'entraîner après des effets qui vont accélérer le vieillissement ou entraîner des maladies neuronales, donc neurodégénératives. Mais ça pourrait également permettre d'en savoir plus et peut-être après de développer des solutions qui limiteraient le vieillissement. En tout cas, c'est sûr que les chercheurs s'intéressent à ce sujet.
Non, mais c'est très prometteur et ça ouvre des belles portes, en fait, sur des aspects qu'on évoque très souvent dans cette émission. Et donc, du coup, mais là, c'est sur un côté musculaire qu'on n'évoque pas toujours, en fait. Oui. C'est ça qui est intéressant. Merci, Carole. Alors, malheureusement, d'un point de vue technique, il est assez difficile de faire participer les auditeurs, ce que j'aurais souhaité leur demander si Carole aurait mérité un cadeau. Alors, comme on ne peut pas avoir spontanément la réponse des auditeurs, je repense que la réponse est oui. Donc, Carole, tu as ton cadeau. Voici ton Théo Laurence.
Ah, génial.
The angels came down from heaven. They left a present in my room. By chance I had a second pillow for you to spread your sweet perfume. Evangelina waited for you. I knew I'd meet you sometime. If I don't ever get to heaven, at least I got to visit just a while. I guess you'll go home with the moonlight when the new day replaced the night. Please let me pour a cup of coffee before you spread your wings of white. Leave me asleep if it's a dream. Take my dear Evangeline. some time. If I don't ever get to heaven, at least I got to visit just a while.
Graphite et graphite.net, je suis obligé de prendre la parole parce que du coup, on a perdu Carole. Oui. Elle était en train de danser langoureusement.
Exactement.
Toute seule sur Théo Laurence avec Evangeline.
Ma c'est chanson préférée de Théo Laurence.
Sur tiré de son album Sauce Piquante. Mm-mm. Et voilà, on l'avait découvert courant février, je crois. Et
c'est vraiment gentil, je ne m'y attendais pas en plus. Donc c'est une très bonne saison, c'est vrai.
Mais non, mais on adore en fait. Mais c'est tellement doux. Et oui, c'est ce que je disais pendant l'émission, pendant qu'on écoutait le titre. C'est totalement efficace, quoi.
Enfin, complètement.
Alors là, il y a
d'un
tout
coup, on imagine la soirée. Moi, j'imagine la lumière devient tamisée. Les gens commencent à danser sur la piste. Ça y est.
C'est efficace, mais assumé. C'est ça qui est très bon. C'est Théo Laurence sur l'antenne des graphites. Vous écoutez donc Biotine sur le graphite.net et sur 94.9 FM pour écouter Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. On va reprendre un peu notre sérieux parce que l'actualité scientifique n'est pas toujours réjouissante. Là, elle est un petit peu plus. On va rester dans le domaine médical. On parlait tout à l'heure donc des neurones et des axones. On va parler de vaccins. En se posant cette question, si en fait il suffisait uniquement de changer le mode d'administration d'un vaccin pour doper son efficacité, c'est la conclusion d'une équipe de chercheurs de l'université de Pittsburgh qui se sont intéressés au cas du BCG, mis au point dans les années 1920. Ce vaccin contre la tuberculose est relativement efficace contre les formes graves de la maladie, notamment chez les jeunes enfants, mais il n'empêche pas l'infection par le bacille et administré de façon intradermique, donc sous-cutanée, donc sous la peau, on a tous eu ce vaccin du BCG, le vaccin contient une souche vivante atténuée d'une certaine bactérie qui entraîne la fabrication par l'organisme de lymphocytes T, mais en quantité insuffisante pour empêcher la bactérie de pénétrer dans les cellules. Et selon une étude qui date de 2014, seul un quart des personnes vaccinées sont protégées de l'infection, 71% étant protégés contre la maladie. Selon l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, un tiers de la population mondiale est ainsi touchée par une espèce d'infection un peu latente, c'est-à-dire infecté par la bactérie, une bactérie qui reste dormante dans l'organisme. Donc il n'y a pas un risque d'activité de cette bactérie. Elle est dormante, mais elle est quand même là. Et dans 5 à 10% des cas, souvent à la faveur d'une baisse de l'immunité, d'une maladie chronique, eh bien cette bactérie, même si elle est dormante, elle peut se réveiller. Et la tuberculose devient alors active et contagieuse. Les scientifiques cherchent donc depuis plusieurs années le moyen de prévenir plus efficacement l'infection. En 2013, l'immunologiste Robert Seder, qui faisait partie d'un organisme de recherche en santé du gouvernement américain, a découvert qu'administrer le vaccin contre la malaria directement en intraveineuse plutôt qu'en sous-cutanée ou en intramusculaire, eh bien, ça assurait une protection plus efficace et mieux tolérée. Et donc, avec ses collègues de l'Université de Pittsburgh, il s'est donc demandé si la même approche pouvait être utilisée pour le BCG. Et pour le vérifier, ils ont donc fait un test grandeur nature, pas sur des hommes, mais sur des singes macaques. Et ils ont testé 5 formulations de ce vaccin chez ces singes, c'est pas facile à dire, dont la réponse immunitaire au BCG est exactement identique à celle de l'être humain. Donc du coup, on est vraiment sur des modèles animaux qui vont vraiment pouvoir nous aider. Selon la procédure standard, c'est-à-dire l'injection sous-cutanée à dose normale, en intradermique à dose élevée, en administration par aérosol, directement dans le sang par intraveineuse, bref, on a un petit peu testé tous les moyens de pouvoir injecter ce vaccin. Il y avait un groupe témoin qui, lui, n'a pas été vacciné, qui a également été constitué. Et 6 mois plus tard, les singes ont tous été volontairement infectés par le bacille de la tuberculose. C'est un peu violent comme test.
Oui.
Hein. Mais voilà, résultat, c'est que tous les singes qui n'ont pas été vaccinés, ils ont développé la maladie sous une forme sévère, bien évidemment. Ça, c'est le groupe témoin. Chez tous les autres groupes, à l'exception de celui vacciné en intraveineuse, on observe également la propagation de la bactérie dans les poumons. Et à l'inverse, 6 des 10 singes vaccinées par intraveineuse ne montrent aucune présence du bacille dans leur organisme. Et les quatre autres, eh bien, la virulence de la maladie, elle est vraiment inférieure. Cela signifie que cette forme de vaccination directement par intraveineuse prévient à la fois l'infection et la maladie. C'est ce qu'explique Joanne Flynn, co-auteur de cette étude, qui est parue dans cette grande revue scientifique internationale Nature, bien évidemment. Une des explications avancées par les chercheurs est que le vaccin par intraveineuse entraîne une production bien plus importante de lymphocytes dans les poumons, et ces cellules immunitaires qui conservent en mémoire les caractéristiques de l'agresseur permettent une réponse plus forte, plus rapide, lorsque ce dernier est de nouveau détecté par rapport au macrophage. Du coup, la bactérie, elle n'a pas le temps d'atteindre la circulation sanguine où elle pourrait rester dormante pendant des années. Cette découverte pourrait amener au développement d'un nouveau vaccin chez l'homme et sauver des millions de vies, c'est ce qu'explique Joanne Flynn. La tuberculose, rappelons-le, reste l'une des dix premières causes de mortalité dans le monde. 10 millions de nouvelles infections chaque année, 1 500 000 décès. Et donc, du coup, si on arrive à trouver un vaccin beaucoup plus efficace, enfin, c'est pas le vaccin qui est plus efficace, c'est la méthode d'injection qui est beaucoup plus efficace. On se demande même pourquoi ça n'a pas été pensé plus tôt. Du coup, là, on serait sur une amélioration de la protection de façon totalement spectaculaire. Donc voilà, ça reste de la médecine, ça reste un petit peu anxiogène, mais en tout cas très prometteur. C'est ça qui est intéressant et
c'est
optimiste.
C'est intéressant parce qu'on était sur du coup une maladie qu'on avait quand même réussi vraiment à combattre et qui est en recrudescence dans certains milieux. Donc
c'est très
intéressant, très intéressant qu'il y ait toujours des recherches là-dessus. Alors on va passer au monde animal.
Comme par hasard.
Oui, comme par hasard. Non, je trouvais que c'était très intéressant de se demander justement qu'est-ce qui pourrait y avoir de commun entre une chauve-souris et un oiseau. À ton avis, Jean-Noël ?
Ça vole.
Oui, c'est bien, en effet. Mais l'un appartient à la classe des mammifères et pas l'autre. Leur capacité de vol ne leur vient pas d'un ancêtre commun et ils n'ont pas le même mode de vie. Pourtant, une étude récente décrit une similitude inattendue cachée au fond de leur intestin. Alors, bien qu'entièrement composé de bactéries, le microbiote intestinal est considéré comme un organe déterminant pour notre santé. Il prévient l'établissement de bactéries pathogènes dans notre intestin et éduque notre système immunitaire. Son rôle est similaire chez les animaux, des primates en passant par les rongeurs. Pour la première fois, une équipe de chercheurs américains a pu comparer la flore intestinale de 900 espèces différentes d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens grâce à des échantillons conservés dans des musées. À l'issue de ces travaux, publiés dans M-Bio, les scientifiques ont établi un lien entre deux espèces diamétralement opposées. Nous y voilà, les oiseaux et les chauves-souris. Alors bien que ces deux animaux soient différents aussi bien sur le plan phylogénétique que dans leur mode de vie, leurs microbiotes intestinaux présentent d'étonnantes similitudes. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement apparemment pour leur permettre de voler. La logique veut que les animaux qui partagent le même régime alimentaire possèdent un microbiote intestinal avec une composition similaire. Les scientifiques ont collecté les déjections de 900 vertébrés et étudié le génome des bactéries qui y vivaient grâce au séquençage génomique. Ils espéraient trouver des similitudes dans la composition des flores intestinales, en accord avec les liens phylogénétiques entre les espèces. Car ces derniers évoluent ensemble selon une théorie scientifique appelée phylosymbiose. Leur surprise a été grande quand ils ont compris que deux animaux différents, c'est-à-dire les chauves-souris et les oiseaux, présentent un microbiote capable, ou plutôt la même absence de relation spécifique avec le microbiote intestinal. C'est ce que précise Se Jin Song, co-auteur de l'étude. Alors, question microbiote, la chauve-souris est plus proche de l'oiseau que de n'importe quel autre animal, même ceux avec qui elle partage un ancêtre commun. La seule chose qui les unit, c'est leur capacité à voler. À l'image du régime alimentaire, la capacité de vol a-t-elle pu contraindre le microbiote intestinal ? Selon les auteurs de l'étude, la réponse, elle semble affirmative. Si vous transportez beaucoup de bactéries dans votre intestin, ça peut devenir lourd. Donc, si vous êtes un animal qui a des forts besoins énergétiques, parce que vous volez, vous ne pourrez pas vous permettre de transporter ces bactéries. C'est peut-être pour ça que l'homme ne vole pas d'ailleurs, hein. Notamment. Alors, c'est ce qu'explique en tout cas Holly Lutz, chercheuse au Chicago's Field Museum et à l'Université de Californie, San Diego. Donc ces animaux ont un tractus intestinal beaucoup plus court que les animaux terrestres de taille comparable et possèdent une diversité bactérienne moindre. Il est possible que cet intestin réduit ne suffise pas à satisfaire les besoins nutritifs d'une communauté bactérienne plus diverse. De plus, chez tous les autres mammifères étudiés, on peut dégager un profil de microbiote intestinal type chez les espèces proches phylogénétiquement. Les chauves-souris semblent à part, et comme pour les oiseaux, les scientifiques ont observé de grandes disparités dans la composition du microbiote intestinal entre les individus. Alors ces résultats, ils pourraient aider à comprendre même notre propre microbiote humain. Si nous rencontrons des situations extrêmes où notre microbiote est perturbé, il y a sûrement quelque chose à apprendre de ces animaux qui n'utilisent pas beaucoup le leur. C'est la conclusion des chercheurs de cette étude et je pense qu'on en saura plus dans les années qui viennent.
Merci Carole. On va continuer avec, on en avait parlé je crois à l'émission fin février il me semble, au terme d'une formation de plus de 2 ans, la NASA et l'Agence spatiale canadienne ont dévoilé la promotion 2017 du corps des astronautes des États-Unis et du Canada. En 2017, il y a eu 18 000 candidats américains. On avait évoqué, donc,
Je crois il y a trois semaines, qu'elles étaient candidatées. Un petit peu,
voilà, il y a encore temps de candidater, il y en a tout le mois de mars pour candidater, je rappelle. La NASA, donc 18 000 candidats américains. La NASA sélectionnait 7 hommes et 5 femmes astronautes candidats. Il y en a un qui a démissionné au cours de la formation. Quand l'Agence spatiale canadienne a sélectionné un homme et une femme parmi plus de 3 700 postulants canadiens. Tous ont comme point commun des CV exemplaires et l'on appréciera la diversité des origines inédites avec des noms de famille asiatiques, hispaniques, indiens, iraniens. La parité homme-femme est presque parfaite entre les candidats. Ces astronautes entrent en service au moment où les agences spatiales du monde entier sont en train d'examiner les possibilités de missions au-delà de l'orbite basse et de la Station spatiale internationale. Ces futurs explorateurs spatiaux pourront être affectés sur des missions à bord des stations spatiales internationales et l'avant-poste lunaire. On en parle déjà de cet avant-poste lunaire. Il y a des missions, bien sûr, à destination de la Lune, de Mars, voire d'un astéroïde. Ils débuteront leur classe à bord de la Station spatiale internationale et, fait nouveau, ils décolleront depuis le sol américain à bord de véhicules commerciaux, dont bien sûr les capsules Crew Dragon de SpaceX, mais aussi Starliner de Boeing. Depuis l'arrêt des navettes en juillet 2011, les astronautes de la NASA dépendaient des capsules russes pour séjourner dans l'espace et rejoindre la Station spatiale internationale. Maintenant, c'est terminé. On passe par des navettes commerciales. Cette nouvelle promotion, elle a été baptisée Turtles, les tortues. Elle a été présentée au public il y a quelques semaines par l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, lors d'une cérémonie au centre Johnson à Houston, au Texas. La NASA compte aujourd'hui 49 astronautes actifs quand même, dont le corps européen des astronautes compte seulement 7 membres. Et la NASA prévoit de débuter dès ce printemps un nouveau processus de candidature, on l'a dit, pour la prochaine classe de candidats à la fonction d'astronaute, on l'a évoqué. C'est encore temps de candidater. Si vous avez un CV intéressant et une résistance physique sûrement assez importante,
surnaturelle,
vous pouvez effectivement candidater. Je rappelle, ils étaient 18 000 au départ. Mm-hmm. Et ils sont 12 à l'arrivée en ce qui concerne les astronautes américains.
Ouais, la sélection est impressionnante.
Un petit article.
Vous l'attendiez depuis la semaine dernière.
Un petit article avant. Alors c'est si long que ça. Oh, on a largement le temps. Encore.
Donc on fait du teasing encore, puisque je le rappelle.
C'est le parfum de la rose.
Voilà, les auditeurs qui n'avaient pas suivi, j'ai promis de parler en effet du parfum de rose et de vous expliquer justement ses propriétés extraordinaires. Attention.
Mais là, on a encore le temps d'avoir un petit article avant.
Le temps. Donc j'ai envie de parler de Notre-Dame de Paris.
Ah.
C'est vrai, hein, on a été très triste quand même quand. Ça va faire. On a vu les images de Notre-Dame détruite par les flammes. Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, on est déjà en train de réfléchir à la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Et donc, vous avez peut-être entendu aux informations, justement, le fait que des architectes privilégieraient plutôt une charpente en bois. On peut se dire, mais pourquoi, justement, il est peut-être temps de trouver d'autres solutions. Il y a eu une audition en fait à l'Assemblée nationale et le vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes a estimé que ce matériau, donc en bois, hein, moderne, écologique, serait justement la solution qui garantirait au mieux la solidité et la pérennité de la structure. Alors, pourquoi est-ce que finalement reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris en bois, eh bien, ça serait la solution la plus écologique et ça garantirait au mieux la solidité de la structure? Eh bien, c'est un débat qui agite en fait les différents experts qui ont tous une opinion, bien sûr, sur la restauration de l'emblématique cathédrale parisienne ravagée par un incendie mi-avril 2019. En fait, ça va bientôt faire un an.
Oui, ça va faire bientôt un an, effectivement.
Le président de l'établissement public chargé du chantier de Notre-Dame, c'est le général Jean-Louis Georgelin. Il a quant à lui démenti dimanche des informations, selon, donc il y a quelques temps, des informations selon lesquelles l'option du chêne avait déjà été retenue pour refaire la charpente, hein, contre des alternatives métal ou béton. Et il a dit qu'il y aura une étude, un examen de toutes les options possibles, estimant qu'un lobbying de la filière bois pouvait être à l'œuvre. Alors évidemment, tout de suite, il y a eu une réaction de Eric Wirth, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui a dit « Parler de lobbying sur un sujet comme celui-là, ce n'est pas à l'échelle et à l'honneur de cet édifice. » Bon, on sent déjà un peu la guéguerre
qui
doit avoir lieu. Selon lui, le matériau le plus moderne, le plus écologique, c'est le bois. C'est celui qui stocke le carbone. Il n'y a pas de contre-indication malgré toutes les fausses rumeurs. Quant à la question du coût, on n'est pas dans des logiques économiques, l'argent est là. Alors, je suis contente de lire ça, c'est important. D'accord, très bien. Je croyais qu'il en manquait quand même encore un peu, mais non, l'argent est là.
L'argent est là.
Le nôtre, c'est ça. Parce que très bien.
Vu et le... tous les donateurs,
le
les mécènes coût,
ouais,
également.
Le coût de reconstruction va être énorme. Alors, ça a fait 800 ans que la cathédrale est là. Si l'ouvrage avait été en acier, il n'y aurait plus eu de cathédrale, même avec toutes les protections, vu le brasier. Le fer tient une demi-heure, une heure, et après il se tord, il tire sur les parois et il fait tout écrouler. Alors, pour avoir, à titre personnel, quelques notions de construction, en effet, hein, j'ai eu cette discussion, on avait échangé avec plusieurs personnes sur ce débat du bois pour Notre-Dame, et c'est vrai que beaucoup de personnes parlent sans savoir, et en effet, justement, avec du métal, il y a d'autres problématiques, il ne faut pas croire que ce soit aussi simple, et justement, le fait que Notre-Dame est, on va dire, soit restée comme ça, il y a eu des rénovations, mais je veux dire, la cathédrale le tenait depuis, si je ne dis pas de bêtises, c'est 12e siècle.
Oui, au départ, oui.
Donc, c'est bien que les méthodes de construction qui pourtant datent de cette même époque étaient quand même redoutables. Alors, il faut se méfier, poursuit M. Wirth, des fausses bonnes solutions, qui préconisent des charpentes métalliques ou en béton, puisqu'elles sont soi-disant plus légères, ces cathédrales tiennent structurellement parce qu'il y a une masse sur une voûte. Ça ne fonctionne que parce que c'est lourd. En plus, on a la chance d'avoir toutes les informations relevées, photographiques, informatiques, numériques, pour reconstruire à l'identique cette charpente exceptionnelle surnommée la forêt de Notre-Dame. Que c'est poétique. Alors, bien sûr, le vice-président de l'Ordre des architectes, il a aussi estimé que le temps du diagnostic allait être extrêmement long et que le délai de 5 ans préconisé par le président Emmanuel Macron constituait un objectif mais pas un impératif. Donc je pense que ça va prendre en fait extrêmement...
Il y a déjà un an de passé sur,
voilà,
les 5.
Mais il a déjà fallu, entre guillemets, sauver les meubles, hein, solidifiant ce qui restait, en sécurisant le site. Et bien évidemment, il va y avoir, je pense, une consultation assez longue pour se décider exactement sur comment on la répare. Ensuite, j'imagine que ça ne va pas se lancer comme ça. Et ensuite, je pense que les travaux vont durer extrêmement longtemps.
On essaiera de suivre ça, parce que ça, c'est un domaine, l'architecture, qu'on évoque très peu dans cette émission. Et pourtant, d'un point de vue scientifique et technique, c'est totalement intéressant. Allez, ça va être l'heure maintenant du parfum de la rose.
Déjà, je ne savais pas.
Oui, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission.
Déjà, je vais être bien triste de vous quitter, auditeurs, et Jean-Noël aussi, bien sûr. Alors, le parfum des roses. Eh bien, en fait, il y a de nouveaux travaux qui viennent d'être publiés dans la revue Scientific Reports et qui suggèrent que le parfum des roses peut réellement stimuler nos capacités d'apprentissage. Des études en fait antérieures menées en laboratoire avaient déjà montré que certaines odeurs, si elles sont inspirées pendant la phase de sommeil à ondes lentes, donc c'est une phase assez spécifique, elles sont capables de stimuler nos capacités d'apprentissage. Cependant, étant donné que cette phase de sommeil doit être déterminée par une mesure efficace de l'activité cérébrale à l'aide d'un électroencéphalogramme, électroencéphalogramme, donc un EEG. La mise en pratique au quotidien de cette astuce était impossible. Attends, je vais vérifier que si je suis bien en phase de sommeil à ondes lentes et c'est bon, il faut que je respire à ce moment-là. Donc il faut, ou après, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, on peut aussi imaginer un système de diffusion. Ou,
oui, automatique.
Automatique. Bon, en tout cas, on n'avait pas réussi à, être plus précis que ça au niveau de la mise en évidence. Et donc, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Fribourg, en Suisse, nous apprend désormais que le pouvoir des odeurs sur nos capacités d'apprentissage pourrait en réalité être effectif durant toute la nuit. Donc, en fait, il faut peut-être justement respirer certaines odeurs en continu toute la nuit. Comment est-ce qu'ils ont mené ces travaux ? Eh bien, les chercheurs, ils ont recruté 54 élèves de deux classes de 6e en Allemagne. Les deux groupes ont étudié un même cours d'anglais, de vocabulaire, durant la journée. Tous devaient ensuite plancher sur ce cours le soir avant d'aller se coucher en vue de passer un test le lendemain. On sait aussi naturellement déjà, je me permets d'ajouter, que lorsque on révise quelque chose en général en fin de journée et qu'ensuite on se couche, c'est vraiment le moment où le cerveau va processer toutes les informations et ça va nous aider à retenir. En général, et je pense que ça a été bien étudié, si on passait le contrôle sans dormir mais plusieurs heures après ou après justement toute une nuit de sommeil, je pense qu'il y a déjà une différence qu'on peut identifier. Donc là, ensuite, on charge les élèves du premier groupe de placer un bâton d'encens parfumé à la rose sur leur bureau à la maison, alors pendant qu'ils apprennent le vocabulaire, et aussi sur la table de chevet à côté de leur lit quand ils dorment. Pendant ce temps, les élèves du second groupe, eux, n'utilisent aucun bâton d'encens, que ce soit pendant la phase d'apprentissage ou pendant la phase de sommeil. Alors, quels sont les résultats ? Eh bien, le lendemain, tous les élèves ont dû passer le même contrôle visant à évaluer les leçons apprises la veille. Les élèves ayant utilisé des bâtons d'encens pendant les phases d'apprentissage et de sommeil ont en moyenne eu 30% de réussite de plus que les élèves du second groupe. Autrement dit, les élèves se souvenaient beaucoup mieux du vocabulaire anglais appris la veille dans une ambiance parfumée à la rose. Là, on a peut-être les vendeurs qui d'un coup vont faire du chiffre d'affaires sur la rose pour tous les parents qui ont envie que leur enfant réussisse leur contrôle.
Oui. Mais c'est spécifique à la rose ?
Alors apparemment, oui, je pense que c'était une odeur qui a été identifiée comme favorisant l'apprentissage. Oui. Et alors, il y en a peut-être d'autres aussi. Hein. Ça,
oui,
c'est pas précisé, l'étude n'est pas exhaustive. Pourquoi est-ce que les résultats sont importants, là, pour les chercheurs ? C'est dans la mesure où le pouvoir de stimulation de ces odeurs, il semble effectif toute la nuit et non durant une phase bien précise. Donc, il serait possible, en fait, de donner finalement ce petit coup de pouce au cerveau de manière quotidienne, sans avoir besoin d'aller passer un enregistrement exact en laboratoire. Ben, je pense que, de toute façon, la diffusion d'un bâton d'encens, même si elle est censée être à peu près continue, elle n'est pas forcément coïncidée ou ça n'a pas forcément duré pendant exactement la fameuse phase dont il parle, qui a l'air assez spécifique et où avant, on faisait vraiment respirer l'odeur à quelqu'un à ce moment-là, en fait. Donc ça sous-entend quand même, ça ils ont vraiment pu le prouver, que globalement ça peut agir durant d'autres phases. Et puis ils le disent aussi, ils mettent le bâton d'encens au moment où il y a la phase aussi d'apprentissage. Donc après, il n'y a pas plus, les données ne sont pas plus détaillées, mais ce serait intéressant justement d'aller regarder cet article de Scientific Reports pour regarder les conditions expérimentales.
Tout à fait, et comprendre un petit peu pourquoi uniquement ce parfum de rose.
Enfin, en tout cas, vous pouvez tester chez vous.
Ou est-ce que ça a une connotation, parce qu'on connaît tous ce parfum de la rose, qu'on associe toujours à quelque chose et que du coup, inconsciemment, on essaierait de, je sais pas, d'avoir un... Enfin, je ne sais pas comment dire.
Tu vois, alors après, oui, on peut étudier pour savoir, pour essayer de comprendre, parce que donc, c'est des molécules après chimiques au niveau des odeurs. Qu'est-ce qui joue plus en détail. Alors, ça a peut-être déjà été... Là, l'étude ne le dit pas, elle ne s'attarde pas là-dessus. Mais peut-être on peut, là, tous, à titre personnel, expérimenter et voir si individuellement... Parce qu'après, ça reste des observations prises au cas par cas, ce ne sera pas scientifique. Mais est-ce que si, donc, quand on a quelque chose d'important à apprendre, on respire justement cette odeur de rose. En tout cas, elle est diffusée. Je pense quand même qu'il faut qu'elle soit vraiment diffusée. Ce n'est pas juste... On sent... voilà, il faut que l'odeur, à mon avis, soit un peu forte. Et après, on laisse, pareil, l'odeur diffusée pendant la nuit. Est-ce qu'on remarque des choses le lendemain ? Est-ce qu'on se sent plus performant ? Ça serait intéressant de... Moi, je vais faire le test, en tout
mais
cas.
Mais voilà, amis auditeurs, faites vous-même votre propre protocole expérimental. À la rigueur, ça pourrait être intéressant. Et puis, on évoquera tout ça prochainement. On communiquera les résultats et on fera notre propre analyse.
Exactement.
On verra bien ça. Merci Carole, on se retrouve un peu plus tard,
on verra
prochainement, mais on te retrouvera bien évidemment sur l'antenne de Graphite. Malheureusement, cette émission est finie, donc je n'ai pas eu le temps d'évoquer cet article qui, je pense, t'aurait intéressé. C'est bien évidemment le fait que d'avoir une activité sexuelle assez fréquente retarderait la ménopause. On l'évoquera lors de ton retour derrière le micro.
Je te fais confiance pour conserver cet article évidemment. Pour la prochaine fois où je serai là, oui.
Mais voilà, et donc pour te faire revenir... The angels
came down from heaven. Ah forcément là, oui, je n'ai pas le choix.
Si tu reviens à l'antenne, tu auras ton Léo Laurence.
Parfait.
Si tu es sage. Nous sommes bien d'accord.
Merci beaucoup.
Merci à toi Carole, on se retrouve à mes auditeurs samedi prochain pour une émission en direct. On continuera bien sûr à feuilleter l'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous écoutiez Biotine, émission de science sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net sur internet. J'adore cette musique de fond.
Oui, c'est bien en fait. Hein. On devrait faire les émissions en regardant la musique.
À bientôt Carole, merci à
tous.
Bientôt. Bonne journée.